la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre frère et notre sauveur. Nous prions ensemble. Père, bénis ce temps et permets que nous soyons dans la communion fraternelle les uns avec les autres. Permets que nous soyons ici dans l'accueil de quiconque veut écouter ta parole et que nous facilitions les chemins vers toi. Donne-nous, Seigneur, la fidélité que tu veux pour notre service. Amen. Je vous invite à chanter avec les petits livrets qui sont à l'entrée du psautier français. Le premier répond, mais d'abord je voudrais accueillir les personnes qui sont de passage ici ce matin et qui sont nos hôtes. Je pense aux scouts qui sont là, donc dans la grande tribune, et qui nous viennent de Haute-Savoie, et qui sont scouts et guides de France, et ils viennent ici à Paris pour une séance sur la citoyenneté. Ils ont visité des lieux comme le Sénat, par exemple, et ils ont pu parler de cette question de la citoyenneté ensemble. C'est un beau projet, nous sommes très heureux de les avoir aidés à passer ce week-end ici et à pouvoir parler de citoyenneté, c'est une chose qui nous tient à cœur aussi. Donc bienvenue à vous et que ce temps de culte soit un temps de communion avec vous et avec l'Église à laquelle vous êtes rattachés dans votre région. Bienvenue. Je voudrais aussi accueillir mon confrère de Suisse, dont malheureusement je ne me souviens plus du prénom, mais je suis sûre qu'il se reconnaîtra. Donc bienvenue à vous et bonjour à nos amis suisses. Et j'aimerais aussi accueillir nos amis américains qui sont ici ce matin et qui nous rejoignent dans ce temps de culte. Et bien sûr, toute personne qui a poussé pour la première fois la porte de ce temple, que tous vous vous sentiez ici chez vous. Merci. Nous chantons ensemble. Et ce matin, j'ai choisi de partager avec vous une louange d'un de nos frères juifs. Il m'a semblé qu'il était nécessaire de redire notre amitié pour la communauté juive dans les temps actuels où, de nouveau, leur religion, leur appartenance fait problème à certains. Il faut que nous soyons courageux et que nous disions toujours que nous sommes dans une amitié profonde avec le peuple juif. Et je partage avec vous la prière de louange du chantre de Sion, comme on l'appelait, Judas Halevi, qui est un auteur du XIIe siècle, poète, philosophe et médecin, né dans l'émirat de Saragosse. Qu'à mes yeux tes voies sont belles et me sont chers tes chemins, sans obstacle ni embûche, rien n'y est tortueux ni trompeur. Je n'ai pu m'avancer sur tes routes que tiré par tes liens. Mon espoir est en toi et mon aspiration. Tu es le rocher de mon cœur, la source de ma vie. Mon œil voudrait contempler ta majesté, mais un être comme moi n'en est pas digne. Quand j'aspirais à te voir, je me tenais au seuil de ta demeure. J'ai subi le poids des péchés de mon peuple, incliné mon épaule sous le fardeau de ses souffrances. Je n'ai pas tendu mes mains vers une divinité étrangère, car nul que toi n'est venu à mon secours. Si j'ai été esclave, c'est à cause de ma croyance en toi, et je n'ai servi personne d'autre que toi. Mon bien-aimé, pour qui ma main se tend vers le haut et mes yeux s'élèvent vers les cieux, En toi sont ma force et ma forteresse. Même si tu m'anéantissais, j'espérerais encore en toi. J'ai subi ta colère, mais en toi j'ai mis mon espoir. Mon âme s'est efforcée de te servir. Elle s'est accrochée aux ailes de ton amour. Toutes tes colères ont passé sur moi, mais mon âme n'a pas oublié ta volonté. Je me suis fortifiée grâce à ton alliance. Oh, combien j'ai aimé la Torah. Alléluia. Je vous invite à chanter notre louange avec le psaume 66. Alors, pardon David, je pense que c'est la version B qu'il faudrait prendre. Voilà, merci.
Thank you.
écoutons la volonté du Seigneur pour nous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand principe. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous chantons. Présentons devant le Seigneur avec le sentiment de certes ne pas pouvoir tout accomplir de ce qu'il nous demande, mais nous empruntons ce matin les mots de Fédor Dostoïevski. Seigneur, recevez-moi dans mon iniquité, mais ne me jugez pas. Laissez-moi venir sans jugement. Ne me condamnez pas, car je me suis condamné moi-même. Ne me condamnez pas, car je vous aime, Seigneur. Je suis vil, mais je vous aime. Envoyez-moi en enfer, et je vous aimerai encore. Et je vous crierai là-bas que mon amour durera jusqu'au siècle des siècles. Que cette confiance en Dieu soit la nôtre aujourd'hui. Je vous invite à vous lever pour recevoir la grâce renouvelée par Dieu. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance en paix. Partageons maintenant une confession de foi avec le trappiste Thomas Merton. Seigneur mon Dieu, je ne sais pas où je vais, je ne vois pas la route devant moi, je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira. Je ne me connais pas vraiment moi-même et si je crois sincèrement suivre ta volonté, cela ne veut pas dire que je m'y conforme. Je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. J'espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais et ne jamais rien faire à l'avenir sans ce désir. En agissant ainsi, je sais que tu me conduiras sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Je te ferai donc toujours confiance, même quand j'aurai l'impression que je me suis perdue et que je marche à l'ombre de la mort. Je n'aurai nulle crainte car tu es toujours avec moi et jamais tu ne me laisseras seule dans le péril. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Ce matin, nous lirons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 23, à partir du verset 6. Paul se trouve à Jérusalem et il est mis en cause par plusieurs institutions de ce lieu. Et il se retrouve donc devant le Sanhédrin. Et voilà ce qui est écrit. « Sachant que l'assemblée était composée en partie de Sadducéens et en partie de Pharisiens, Paul se mit à crier dans le Sanhédrin. « Mes frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. Si moi je suis mis en jugement, c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts. » Quand il eut dit cela, il se produisit une dispute entre les pharisiens et les sadducéens, et la multitude se divisa. Les sadducéens, en effet, disent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens croient à tout cela. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens se levèrent et protestèrent vivement en disant « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme, et si un esprit ou un ange lui avait parlé ?» Voilà, je vous invite à chanter ensemble le cantique 190.
Et toi.
Nous prions ensemble pour nous disposer à écouter. Et nous prions avec Søren Kierkegaard. Ne nous laisse jamais oublier que tu parles aussi quand tu te tais. Donne-nous d'avoir cette confiance quand nous attendons ta venue, que tu te tais par amour, comme tu parles par amour. Que tu te taises ou que tu parles, tu es toujours le même Père, le même cœur paternel, que tu nous guides par ta voix ou que tu nous élèves par ton silence. Amen. Paul est à Jérusalem et il lance un débat théologique devant le Sanhédrin, sachant qu'il est en présence de deux partis, celui des Sadducéens et celui des Pharisiens. Imaginons la même scène de nos jours dans une pastorale régionale ou dans un synode. Nous avons nous aussi nos tendances théologiques et il est parfois bien difficile de comprendre la foi de l'autre. Sans doute quelques disputes éclateraient-elles aussi. Aujourd'hui comme hier, les croyances se définissent souvent à partir du contenu de leur foi, comme s'il existait une possibilité de dresser une liste de ce à quoi l'on croit et de ce à quoi l'on ne croit pas. Pourtant, aujourd'hui comme hier, cette liste est difficile à écrire. En effet, que veut dire croire par exemple à la vie éternelle, croire à la résurrection ou encore croire à l'existence des anges? Tous ces termes recouvrent des entités fictives plus que des réalités tangibles. Qui a déjà vu une résurrection? Qui connaît la vie éternelle et peut la raconter? Qui est allé déjà au royaume des cieux et en est revenu pour nous le raconter? Qui a déjà vu débarquer chez lui un ange? Ceux qui osent affirmer que ces termes recouvrent des réalités tangibles ne sont pas toujours tous dignes de confiance. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faille évacuer totalement ces mots de nos réflexions théologiques, car ils disent à leur manière quelque chose de la foi de ceux qui les utilisent. Une entité fictive, ce n'est pas forcément un mensonge, et loin de là. Prenons par exemple les anges, et c'est ce dont je voudrais vous parler ce matin. Leur existence dans les écrits bibliques ne remonte pas seulement à l'épisode de l'annonce de la naissance de Jésus faite à Marie, mais bien avant. Par exemple, lors du sacrifice d'Isaac dans la Genèse, Abraham tendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. Alors, l'ange du Seigneur l'appela depuis le ciel en disant « Abraham, Abraham, ne porte pas la main sur ton garçon et ne lui fais rien. » Ou alors, dans le livre du prophète Zacharie, « L'ange qui parlait avec moi me dit « Moi, je vais te faire voir qui ils sont. » Il parlait des cavaliers qui arrivaient dans sa vision. ou encore dans celui du prophète Malachie. J'envoie mon ange, il fraiera un chemin devant moi. Rien d'étonnant d'ailleurs si l'on traduit le nom de Malachie, ce prophète peu connu, qui veut dire en hébreu « mon ange », tout simplement. Dans tous ces textes, le terme « malak » en hébreu, ou « ange », désigne des messagers qui interviennent et parlent au nom de Dieu à des hommes qui ne savent pas comment déterminer leur action. Ces messagers sont parfois tellement proches de celui qui les envoie qu'ils en sont confondus avec lui. Et quand ils sont nommés comme Michel dans le livre de Daniel, Raphaël dans le livre de Tobie ou Gabriel dans nombre de livres bibliques, ils portent dans leur nom le L final qui signifie Dieu. Leur rôle n'est pas négligeable dans des récits où la vie des hommes est menacée ou compliqué par des événements inédits. Et au fil du temps, leur fonction de messager va évoluer vers une existence à part entière dans les personnages du Nouveau Testament. Ils deviennent de vrais personnages que l'on peut voir, rencontrer, avec qui l'on peut discuter. Les angeloi en grec, ou anges, deviennent des personnalités visibles comme des êtres célestes descendus sur la terre. Ils vont même servir de modèles pour se figurer à quoi ressembleront les hommes ressuscités après leur mort. Ainsi, dans Matthieu, on peut lire « À la résurrection, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges du ciel. » Alors, que faire avec ces personnages de la Bible? Les rejeter comme s'ils ne devaient pas peser dans notre lecture? Croire en leur réalité comme si un arrière-monde existait, peuplé de spectres, d'esprits et de démons? Jean Calvin lui-même, dans son Institution chrétienne, n'a pas pu faire l'impasse sur ces personnages si importants pour la communication entre Dieu et les hommes. Dans le premier livre de l'Institution chrétienne, il consacre plusieurs paragraphes aux anges. Il se demande d'abord si ce sont les créatures de Dieu. Et comme les récits de création ne parlent pas des anges, il en déduit « Moïse, afin de tenir compte de l'ignorance des simples, n'évoque pas d'autres œuvres de Dieu que celles que nous avons sous les yeux. » Notons que pour Calvin, il va de soi que Moïse a écrit tout le Pentateuque. Puis il ajoute « Même si Moïse, qui s'exprime en langage simple et populaire, n'a pas mis dès le début les anges au nombre des créatures de Dieu, cela ne nous empêche pas d'exposer clairement ici ce que l'Écriture en dit ailleurs. » Calvin, le réformateur désireux de combattre la superstition, ne néglige donc pas les anges, bien au contraire. Et même s'il met en garde contre des doctrines comme le manichéisme, dans laquelle les anges deviennent de véritables concurrents pour Dieu, et qu'il rappelle qu'ils ne doivent pas être révérés, ces anges, et que l'on doit n'adorer que Dieu, ils restent convaincus de l'importance de leur rôle. Il déduit cette importance de la présence des anges dans de nombreux textes bibliques. Mais pour lui, il ne faut pas chercher à les figurer ou à les décrire, et il critique d'ailleurs l'œuvre attribuée au pseudo-Denis, la hiérarchie céleste. Et Calvin écrit à ce sujet, « On s'aperçoit que la plus grande partie n'est qu'une fable. Un théologien ne doit pas se préoccuper de chatouiller agréablement les oreilles de ses auditeurs, mais de fortifier les consciences en leur enseignant des choses vraies, confirmées et utiles. » On a l'impression, en lisant cet ouvrage, dit-il, que son auteur est comme tombé du ciel et qu'il raconte seulement non seulement ce qu'il a appris, mais ce qu'il a vu. Pour Calvin, il ne s'agit pas de décrire les anges comme des personnages célestes visibles, et l'essentiel est ailleurs, et tient dans la fonction médiatrice des anges. Pour Calvin, les anges sont des esprits célestes dont Dieu se sert pour accomplir sa volonté. Les noms divers qu'on leur donne précisent cette fonction. Dans l'évangile de Luc, on les appelle des armées. Ils sont comme des soldats qui accomplissent le service de leur Seigneur et combattent pour lui. Dans le livre de Daniel, ils apparaissent en myriades. Dans la lettre de Paul aux Colossiens, ce sont des puissances. Et dans la lettre de Paul aux Éphésiens, ce sont des principautés, des autorités. On les appelle aussi des trônes, pour signifier qu'ils portent la gloire de Dieu. Tout ceci signifie qu'ils sont introduits dans les récits bibliques pour nous faire comprendre quelque chose de Dieu. Et c'est donc l'impossibilité de décrire la puissance, l'autorité, la gloire de Dieu qui impliquerait le recours à ces agents de la compréhension d'une autre chose plus grande que nous, d'une chose trop grande pour être comprise de notre intelligence bornée d'homme. Mais Calvin se dévoile dans sa plus grande humanité quand il consacre un paragraphe entier à la question des anges gardiens. Et oui, on trouve cela dans l'institution de la religion chrétienne. Rien de surprenant sans doute quand on lit ses références au psaume, notamment au psaume 91. Il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Mais quelle surprise de lire que pour Jean Calvin, le grand réformateur pourfendeur des reliques et autres bondieuseries superstitieuses, lorsque Jésus-Christ dit que les anges des petits-enfants voient toujours la face de son Père, il indique bien que certains anges ont la charge des petits-enfants, mais je ne sais si l'on doit en conclure que chacun a son ange gardien. Calvin était un père meurtri par la perte d'un enfant. Dans cette réflexion, on sent toute la tendresse d'un père qui remet son petit enfant à Dieu dans un siècle où la vie était extrêmement fragile. À la lecture du débat qui oppose les pharisiens aux sadducéens, Calvin prend très clairement parti contre les sadducéens qui, d'après lui, croyaient que le mot « ange » correspondait en fait aux impulsions que Dieu inspire aux hommes. Cette interprétation sadducéenne est intéressante pour nous, car elle fait place au caractère nominal de telles entités. Et elle montre que dès les temps anciens, dans le judaïsme, les partis théologiques se définissaient selon leur mode de lecture très différent de la Bible, de la Torah. Les sadducéens, comme descendants des classes de prêtres, insistaient sur l'observance de liturgies rituelles, mais ne croyaient à aucune spéculation sur la vie après la mort, l'existence d'entités spirituelles ou un lieu céleste où résideraient les anges. C'était en quelque sorte des oratoriens avant l'heure. Ils avaient un esprit critique et se présentaient assez libéraux en refusant certes tout changement rituel, mais en critiquant de façon rationnelle et scientifique les croyances religieuses. Ils auraient fait d'assez bons libéraux en fait. Il semble bien que les anges puissent être compris comme des entités fictives utiles à la compréhension de ce que Dieu demande aux hommes. Mais comme ce sont des hommes qui les ont introduits dans les récits bibliques, il est encore plus intéressant de regarder leur fonction comme une création des hommes eux-mêmes pour répondre à des problèmes qui touchent à leurs actions dans la foi. Quand Abraham est retenu au moment de sacrifier son propre fils, la question à laquelle répond l'intervention de l'ange est celle, sans doute, de la limite de l'obéissance à Dieu. Comment un Dieu qui tient à son peuple pourrait-il supporter la mort d'Isaac ? L'ange intervient alors comme un agent de la réflexion du croyant et comme capacité à sortir d'un dilemme humainement intenable. Quand l'ange apparaît à Marie lors de l'épisode que l'on appelle l'Annonciation et qu'il lui adresse une salutation qui l'élève à la dignité de mère du Sauveur, la question qui sous-tend une telle scène est bien la dignité d'une femme qui enfante hors mariage et se trouve dans une situation intenable du point de vue de la loi et de la morale de son temps. Comment faire pour parler de salut là où la femme est humiliée par le regard d'une société qui la rejette? Quand l'ange vient se battre avec Jacob au bord du Yabok, la nuit tout au bord du fleuve, et qu'il finit par bénir Jacob avant de le laisser avec le souvenir d'une blessure de hanche qu'il identifiera toute sa vie. N'est-ce pas la situation de guerre avec son propre frère pour le territoire qu'il doit habiter qui est en cause dans cet épisode presque mystique? Comment se déterminer dans une telle situation? Que choisir quand les intérêts des uns et des autres sont contradictoires? Jacob va rencontrer le lendemain son frère, il a peur de lui, et ils sont à deux à se partager des territoires. Jacob est donc divisé, donner place à son frère, prendre sa part, comment faire? L'ange ici signifie un combat intérieur qu'il est bon de prendre en compte. Quand le diable utilise la figure de l'ange dans le psaume 91, justement cette phrase que nous lisions tout à l'heure, « Il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies », quand le diable se sert de cette citation pour tenter Jésus et le pousser à la toute-puissance à cause de la protection de Dieu, n'est-il pas en train de dire ce qu'est cette entité fictive de l'ange? Car il s'en sert en pervertissant son action et son influence sur la foi de Jésus. La protection et la bénédiction de Dieu ne sont plus alors garanties, une garantie de compréhension entre Dieu et l'homme, mais la source de l'orgueil du croyant que le diable veut susciter en Jésus. Jésus résiste à ce dévoiement de la figure de l'ange. Ainsi, si l'on recherche et que l'on voit dans les textes bibliques comment répondre aux questions « qu'est-ce qu'un ange et doit-on y croire ?», on peut y répondre en disant que l'ange occupe une fonction d'ambassadeur de Dieu. Il représente sa volonté, est autorisé à porter sa parole et a tout pouvoir pour intervenir en son nom, dans un territoire où Dieu ne se laisse pas appréhender. Un ambassadeur du ciel, en quelque sorte. Mais cela ne veut pas dire que cette fonction puisse être figurée par des caractères physiques précis ou une existence visible. Ce qui compte ici, c'est la fiction utile d'ambassade. Comme l'ambassade figure le territoire d'un pays dans un pays étranger, sans pour autant rendre visible réellement ce territoire. Quand on est à l'ambassade de France à Québec, on est en France. Et pourtant, il n'y a là pas forcément grand-chose de français. L'ange figure la place de Dieu dans la conscience humaine. On rétorquera qu'il s'agit là de la foi. Pourtant, l'ange n'a pas cette fonction de figurer la foi. Il est plutôt l'agent éthique du croyant. Quand la foi est mise en question par la loi, quand l'obéissance doit être remise en question à cause de l'intérêt du croyant, de sa survie ou de sa dignité, alors l'ange arrive et dénoue la situation de blocage. Et souvent il transgresse l'ordre établi pour inventer des possibles, les possibles de Dieu dans la vie humaine. C'est ainsi que l'apôtre Philippe est appelé à baptiser un eunuque, lui qui connaît les règles du judaïsme. Il le fera quand même. Quand Pierre est libéré de prison, on voit aussi un ange qui le libère. Quand il doit aussi aller manger avec les païens des viandes qui ont été sacrifiées à d'autres dieux, il est aussi bien en peine de savoir que faire et il va être conseillé de la même façon. L'ange est un agent libérateur qui possède une immunité diplomatique du ciel. Il invente des voies jusque-là ignorées, car contraires à l'observance ordinaire des règles. Alors, croit-on aux anges? Doit-on y croire? La question n'est pas d'affirmer leur existence réelle. Il ne s'agit pas non plus de les adorer comme des divinités. Quand dans l'Apocalypse, Jean s'agenouille devant l'un d'entre eux, celui-ci lui intime l'ordre de se relever en lui disant « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, adore Dieu. » La question se pose, la question que posent les fictions angéliques est celle de notre relation à Dieu et de notre obéissance. Ne pas appliquer de façon rigide la loi et questionner ce que nous en comprenons est sans doute la façon la plus saine pour vivre sa foi, et les anges nous y aident sans doute. À travers la figure des anges, les auteurs des Écritures nous rappellent que la loi est pour l'homme et pas l'inverse. Les règles divines ont pour but notre vie et notre bonheur. Quand l'ange nous fait sortir des règles établies parce que nous sommes dans un dilemme intenable, il nous protège et il nous sauve. Et il nous ouvre au possible infini de Dieu. Alors, entre sadducéens et pharisiens, pas de choix à faire. Mieux vaut choisir la voie des anges, sans doute. Amen. Merci infiniment, David. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 69, « Grand Dieu, nous te bénissons », qui fait partie des réponses de notre liturgie, mais que nous pouvons chanter maintenant en pensant à ces fameux anges, les strophes 1, 2 et 3.
Thank you. Bonjour à tous. Merci à notre pasteur Béatrice Cléromazir. Merci à David Cassan qui accompagne à l'orgue notre culte de ce matin. Je voudrais aussi remercier les personnes qui permettent chaque semaine la consultation des cultes sur le site de l'oratoire. D'abord Maud Delin qui filme les cultes chaque dimanche, puis Gérard Delin qui enregistre et qui fait le montage, et Jean-Daniel Philippe qui met en ligne les vidéos et les textes des prédications. À l'issue de ce culte, vous êtes invités à venir partager à la sacristie un verre d'amitié pour accueillir et pour être accueillis. Samedi prochain, 2 mars, de 10h à 11h, à la maison presbytérale, le pasteur Gilles Castelnau animera une initiation à l'hébreu biblique. Hébreu biblique, niveau découverte. Et puis à 16h, ici, l'Atoll organise dans le cadre des récitals d'orgue mensuels une projection d'un grand film muet qui a obtenu en 1927 2 Oscars, L'Aurore de Murnau, qui sera accompagné à l'orgue par l'organiste titulaire de l'église Saint-Étienne du Mont, Thierry Esquèche, qui est à la fois organiste, compositeur et improvisateur. Cette projection sur grand écran durera 1h37. Dimanche prochain, 3 mars, je rappelle que c'est une journée sans voiture dans les 1er et 4e arrondissements. Le culte sera présidé par le pasteur Béatrice Cléromazir et c'est Alexandre Korovitch qui l'accompagnera à l'orgue. Il n'y aura pas de garderie en raison des vacances scolaires. Dimanche prochain, à midi, à l'issue du culte, salle Mono, il y aura un repas paroissial et nous vous serions reconnaissants si vous pouviez vous inscrire ce matin à la librairie et au plus tard, en début de semaine, auprès de la secrétaire de la paroisse, Isabelle Appia. Dimanche prochain, le 10 mars, c'est le pasteur Jean-Michel Perrault, qui a été pasteur de cette paroisse, qui assurera le culte, car Béatrice Cléromazir sera en congé du 4 au 10 mars. Pendant l'absence de notre pasteur, vous pouvez joindre le secrétariat, c'est-à-dire Isabelle Appia, au numéro de téléphone qui est indiqué sur le site. Le samedi 16 mars, le Magnificat de Bach sera interprété à 18h par la Camerata Saint-Louis, dirigée par Georges Guillard. Enfin, je signale le mardi 19 mars à 20h, ici, une conférence accompagnée d'un film et suivie d'un débat sur les Cévennes huguenotes, terre de refuge. Cette conférence parlera de l'accueil des persécutés, en particulier, mais pas seulement, les Juifs. C'est une soirée organisée et animée par le libraire de la librairie Jean Calvin, Franck Belloir. Elle réunira le recteur Philippe Joutard, Patrick Cabanel, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, et Alain Villain. Merci beaucoup. C'est le moment de l'offrande.
Nous louons Dieu au moment d'entrer dans la liturgie de la Sainte Cène. Seigneur, notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus le Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous te chantons. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les douze et pendant le repas, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés ». Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous prions ensemble. Père, invité à ta scène, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus le Christ, de sa mort, de sa résurrection, et dans la confiance, nous te présentons notre monde. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les familles autour de nous, dans cette communauté même, qui sont en deuil actuellement. Permets qu'au-delà des mots que nous avons pu partager avec eux ici même, nous puissions être auprès d'eux quand ils en éprouvent le besoin. Permets que nous soyons toujours vigilants à la solitude de ceux qui restent dans le deuil. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui utilisent la Bible à des fins qui ne sont pas les tiennes. Nous te prions pour que tu les éclaires, Seigneur, et qu'aucune violence ne soit faite en ton nom avec les témoignages bibliques. Seigneur, nous te prions pour toute la communauté juive de notre pays. Permets qu'ils soient assurés de notre sympathie et que la haine et la bêtise n'aient aucune prise sur leur liberté et leur vie profonde et spirituelle. Donne-nous, Seigneur, d'être plein de courage pour eux et plein de courage pour tous ceux qui pourraient être inquiétés pour leurs convictions religieuses, tous ceux qui sont hommes et femmes de paix et qu'on voudrait empêcher de vivre dans cette paix. Rappelle-nous que nous sommes nous-mêmes une minorité et qu'ensemble, nous devons, avec les autres minorités, appelé à l'amour du prochain et à la conciliation en toutes circonstances pour pouvoir amener la paix dans notre pays. Nous te prions, Seigneur, pour tous les enfants qui nous sont confiés pour leur éducation. Nous leur apportons autre chose que ce qu'apporte l'école et nous devons être vigilants à leur apporter toujours le souci d'un monde meilleur. Donne-nous, Seigneur, d'être des adultes responsables devant eux et que nous puissions les former à une citoyenneté responsable et paisible. Ensemble, nous te disons cette prière que Jésus a appris à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous chantons ensemble. Nous sommes tous invités au repas du Seigneur. Vous êtes ici dans votre maison et vous pouvez prendre le repas parce que c'est le Seigneur qui vous y invite. Je vous invite à faire cercle autour de cette table et évidemment il y aura plusieurs cercles consécutifs puisque nous sommes trop nombreux pour n'en faire qu'un seul. Donc merci de patienter pour ceux qui ne pourraient pas venir dans le premier cercle. Merci. Je rappelle qu'il y a une timbale de jus de raisin pour les personnes qui ne prennent pas d'alcool du tout. Le pain que nous partageons est signe de la présence de Jésus, le crucifié. Le vin que nous partageons est mémorial du sang du Christ, le ressuscité. Allez dans la paix de votre Seigneur. Allez avec la force que le Seigneur vous a donnée.
Allez avec la bénédiction du Seigneur.
Seigneur, merci. Merci pour ce repas que tu nous as donné et qui nous a rendus plus proches de toi. Élargis l'espace de notre vie. Donne-nous d'accueillir les êtres et les événements qui surviennent sur nos chemins et de les accueillir comme ce que tu nous envoies à vivre. Aide-nous, Seigneur, à avoir confiance. Amen. Frères et sœurs, c'était ici le moment d'une halte, mais l'Évangile est à annoncer dehors, ailleurs, à d'autres que ceux qui sont ici. Alors levez-vous et nous allons pouvoir conclure ce temps de culte ensemble. Et à la fin de ce culte, je vous inviterai à rester un moment pour écouter notre organiste, qui a, vous l'avez entendu, un énorme talent et qu'il est bon de prendre le temps aussi dans notre vie de s'arrêter et d'écouter cette musique qui nous permet de finir, de conclure cette méditation de ce dimanche. Frères et sœurs, allez, allez tels des anges, des messagers de Dieu, des gens qui portent le message de celui qui nous sauve. Allez, soyez porteurs d'espérance. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur, de toute grâce, nous bénit et nous garde. Amen.